Eh bien, bonjour à tous, vous allez bien? Ce soir, je vais vous demander, je vais vous poser des questions, et ça serait bien si vous pouviez répondre, comme vous venez de le faire, quand je pose la question. Vous répondez à la question, vous ne dites pas oui. Parce que, comme vous venez de le faire. Bien, eh bien, on salue tous nos amis qui sont sur Révélation Bible, que Dieu vous bénisse, et on va prier le Seigneur, notre Dieu. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, pour ton esprit qui nous inspire et qui nous parle. Et Jésus, je te prie que ce soir, chacun soit vraiment à l'écoute de façon sérieuse pour bien comprendre ce que je veux dire et non pas ce que je ne veux pas dire. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 8, verset 56. Jean 8, 56. Alors, c'est Jésus qui parle et qui dit: Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Vous aviez déjà fait attention à ce texte? Il l'a vu et il s'est réjoui. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais vous dire des choses qui sont un peu fortes. Il va falloir avaler ça. Déjà, à la base, on sait qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est un point sur lequel tous les chrétiens sont d'accord. OK. Mais je vais vous révéler quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur par son amour, parce que Il veut rétablir les choses, il veut que les choses soient correctes. Et est-ce que vous connaissez le texte sacré qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Vous connaissez le passage, on pourrait dire aussi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend pour avoir la foi vient de ce que Dieu dit. C'est ça que ça veut dire ce texte. Ou je me trompe, C'est ça que ça veut dire. Alors, mes frères et sœurs, quand Adam et Ève rencontraient Dieu dans le jardin, vous voyez que je vais partir de la Genèse pour aller, non, n'ayez pas peur, je ne vais pas aller jusqu'à l'Apocalypse comme ça. Mais quand Adam et Ève rencontraient Dieu dans le jardin, ils rencontraient le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas 150. Bon. Pouvez-vous me dire son nom? Ah, d'accord. Nous savons que Dieu a un nom. Nous savons que Jésus est venu pour révéler le nom du Père. Il l'a révélé à ses disciples. Quel nom a-t-il révélé?
Jésus.
Dans Jean 17, 26, c'est dit: Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci, c'est-à-dire mes disciples, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. À qui? À ses disciples qui vivaient là avec lui. Et puis ensuite, il continue, il dit « Et je le leur ferai connaître. » Attends, il leur a fait connaître et il veut leur faire connaître encore? Non. Il dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître à ceux qui viendront après, à ceux qui seront mes disciples après. Je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Ça, c'est dans Jean 17, 25, 26. Les disciples de Jésus, ils connaissaient le nom du Père. Si vous allez demander à quelqu'un dans un milieu évangélique quel est le nom du Père, il va vous dire Yahvé, Jéhovah, enfin toutes sortes de noms. Moi, je connais le nom du Père. Le connaissez-vous? Ésaïe disait en son temps, on trouve ça dans Ésaïe 9, 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Il parlait de qui? De Jésus. Et il continue en disant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui est ce Fils qui nous a été donné? C'est le Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Ce Fils qui nous a été donné, on l'appelle Père. Ça, c'est un mystère. C'est le Père éternel qui est incarné, qui est venu dans la chair. Quand l'ange est venu vers Marie et qu'il a ensuite parlé avec Joseph, il y a toute une histoire. Il lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus pour accomplir la prophétie qui dit qu'il s'appellera Emmanuel. Oh, voilà. Frère Claire, vous allez avoir un fils et vous lui donnerez le nom de Gustave afin que s'accomplisse la prophétie qui dit qu'il s'appellera Jérôme. C'est bizarre quand même, non? Pourquoi il s'appelle Jésus? Afin d'accomplir la prophétie qui dit qu'il s'appellera Emmanuel. Parce que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Et il n'y a pas 150 dieux. Écoute, ô Israël, il y a un seul Dieu. Alors, est-ce que vous croyez ça? Moi, je crois ça. Parce que je le lis et c'est simple. Jésus donc dit qu'il a révélé le nom de son Père à ses disciples. Il a parlé aux autres, ils n'ont pas connu, mais à eux, je leur fais connaître. À quel moment est-ce que Jésus a fait connaître le nom de son Père à ses disciples? Un jour, ils étaient tous ensemble, et puis il leur parle, il leur dit, vous trouvez ça dans Jean 14, 7, « Si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Et il continue en disant une chose choquante. « Et vous l'avez vu. » Alors Philippe, pas un avais, un autre. Philippe, l'un disciple aussi, lui, il n'avait pas du tout compris ce que Jésus voulait dire. C'était tellement énorme ce qu'il était en train de dire. Qu'il demande, « Seigneur, écoute, montre-nous simplement le Père et ça nous suffira. » Il était, voilà, « Montre-nous le Père, ça nous suffira. » Alors Jésus répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire là? « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Mais c'est le Père qui est en moi qui les dit et c'est lui qui fait les œuvres, c'est-à-dire les miracles. Vous trouvez tout ça dans Jean 14, 7 à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant les disciples, il y avait un bonhomme qui était là, qui s'appelait Jésus et qui parlait et qui faisait des miracles. Et il est en train de leur dire, maintenant le Père, vous l'avez vu parce qu'il est en moi. C'est-à-dire ce qui anime mon corps, c'est l'esprit du Dieu créateur, c'est l'esprit, c'est moi, c'est Dieu, je suis. Il dit, ça fait si longtemps que je suis, ah, je suis, c'est le nom de Dieu, avec vous, puis tu ne m'as pas encore connu, tu ne m'as pas vu. Alors les disciples, ils voyaient un bonhomme, mais dans cet homme, c'était le Père éternel. Comme Ésaïe avait dit, on l'appellera Père éternel. Mais si vous allez dire ça aux gens que Jésus, c'est le Père éternel, oh, c'est quoi cette histoire? Et pourtant, ils s'accordent tous pour dire que c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ils vont dire, oui, mais c'est parce que Jésus, il est autant Dieu que Dieu. Voilà, ils en ont deux. C'est du polythéisme, là. Et puis le Saint-Esprit, c'est le troisième. Et puis pourquoi pas rajouter la Vierge Marie, qui maintenant, en plus, n'est-ce pas, est en voie de déification. Alors, il veut venir tabernacler en nous, habiter en nous par son esprit. Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien d'abord, il le dit, on trouve ça dans Hébreux 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment voulez-vous que je m'approche de Dominique si je ne crois pas que Dominique existe? Je vais aller dans quelle direction? Je vais aller où? Donc celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. C'est une logique imparable. Ensuite, il faut une réelle repentance. Ensuite, il faut le baptême d'eau et puis recevoir le don du Saint-Esprit. Ça, c'est Actes 2, 38. Quand le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, les gens étaient touchés, ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Mais il leur dit « Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit. » Et c'est ainsi que nous pouvons naître d'en haut, naître de Dieu. C'est comment? C'est quand, justement, Jésus vient habiter en nous par son esprit, c'est-à-dire que on se repent, on se fait baptiser pour montrer qu'on passe de la mort à la vie. C'est un geste symbolique mais obligatoire. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Puis ensuite, on reçoit le Saint-Esprit qui fait de nous des nouvelles personnes. On devient de nouvelles personnes à partir de là. Le fait de croire, ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible nous dit que le diable, les démons croient, mais qu'ils tremblent. On trouve ça dans Jacques 2, 19. Pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Parce qu'ils ne font pas les œuvres de la foi, c'est-à-dire les choses qu'ils devraient faire, qu'ils savent que Dieu veut qu'on fasse. Les démons, ils sont en rébellion contre Dieu. Ils croient bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ils tremblent parce qu'ils savent aussi que si quelqu'un ne fait pas la volonté du Père, il ne peut pas être sauvé. Hein, Jésus dit, on trouve ça dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, les démons ne faisaient rien, ils ne font toujours rien de ce que Dieu veut. Ils sont damnés. Ils le savent par les Écritures, puis aussi parce qu'ils connaissent bien le caractère de Dieu. Alors, ils tremblent. Ils savent ce qu'il faut faire par les Écritures, comme par exemple Malachie 3, 9. Voilà, vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, etc., etc. Vous ne voulez pas faire ma volonté, ben voilà. Et beaucoup de chrétiens ont commencé à vivre par l'esprit, c'est-à-dire dans la soumission au Seigneur, dans l'amour et tout, et ils finissent par la chair, c'est-à-dire en se forgeant une forme de religion, à la va comme je te pousse, et Jésus dit, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est là que je vais en venir à vous dire ce que j'ai à vous dire ce soir. On a passé à Adam, maintenant passons à Abel. Abel, la Bible nous dit qu'il a offert un sacrifice par la foi. Où est-ce que c'est écrit ça? C'est écrit dans Hébreux 11, 4. Il a offert un sacrifice par la foi. Or, rappelez-vous, on ne peut pas avoir la foi à moins d'avoir entendu Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Abel, donc, s'il a agi par la foi, c'est qu'il a entendu Dieu lui parler de comment faire un sacrifice. Il a reçu cela de Jésus lui-même, Jésus, le Père éternel, dont nous parle Ésaïe chapitre 9. Sinon, il n'aurait pas pu faire par la foi. Il l'aurait fait voilà, en disant, étant donné que je suis berger, je vais offrir une brebis. Comme l'autre, il a dit, je suis paysan, je vais offrir du blé, puis des chouchis. Hein? Et Abraham, Jésus nous dit qu'Abraham a vu le jour de Jésus-Christ et qu'il s'en est réjoui, il l'a vu. Abraham a donc eu la révélation de Jésus-Christ. Tous les hommes de foi de l'ancienne alliance connaissaient Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le Père éternel. Parce que Jésus-Christ est le même hier, dans l'ancienne alliance, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, et éternellement, il est toujours le même, il ne change pas. Or, c'est par le nom de Jésus-Christ que les disciples faisaient des miracles. Hein, quand ils ont guéri l'apôtre Pierre et ses amis ont guéri l'homme à la porte, c'est par le nom de Jésus que vous venez de crucifier que cet homme marche maintenant. Et c'est par le même nom que sous l'ancienne alliance, tous les miracles ont été faits. Parce que le Père éternel se révélait à ses serviteurs et il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions faire un miracle. Il connaissait le nom. Mais ce nom a été mis de côté pendant des siècles de ténèbres. Et puis voilà que les gens se sont mis à prier les saints, ensuite ils se sont mis à prier la Vierge, ensuite ils ont prié le Tout-Puissant, et puis la Sainte Trinité, et puis tout ce que vous voulez, sauf le nom de Jésus. On doit prier le Père au nom de Jésus, mais ça, non. Tout, sauf ça. Ce qui fait que personne n'avait d'administrateur légal pour administrer l'Église, pour agir et parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il parlait au nom de la Trinité, au nom de ceci, au nom de cela, au nom des saints, machin, tout ça. Et il a fallu que ça soit rétabli en premier. Alors écoutez bien, quand Jésus est venu sur la terre, il a vécu à peu près 30 ans comme un simple bonhomme. Tous les gens
ton village, oui, mais on connaît, c'est le fils de Joseph, toi, on sait, bon, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui prend là tout d'un coup? Il le connaissait, c'était un simple bonhomme. Très gentil au demeurant, voilà, mais c'était un homme normal. Jusqu'au jour où il a reçu son ministère par un administrateur légal. Qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était un homme en qui résidait l'esprit d'Élie. C'est ce que l'ange a dit à son papa, qui s'appelait Zacharie. Zacharie, je vous rappelle qu'il était sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire prêtre. S'il était prêtre, c'est qu'il était lévite. S'il était lévite, ça veut dire qu'il était de la descendance, n'est-ce pas, selon l'ordre d'Aaron. Hébreux 5, 4 dit « Nul ne peut s'attribuer cette dignité d'être prêtre s'il n'est appelé par Dieu comme le fut Aaron. » Question, comment Aaron a-t-il été institué prêtre, appelé par Dieu? Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, on va lire dans Exode 4, 12, 16. Ça vous intéresse ou ça vous barbe? C'est une étude, hein, c'est une étude. C'est pas une réunion d'édification. Bien que c'est édifiant quand même, j'espère. Hébreux, qu'est-ce que je vous dis là? Exode 4, 12, 16. C'est Moïse qui dit, attends, voilà, j'ai la bouche embarrassée, et Dieu lui dit, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. Enfin, il résiste tellement à Dieu que finalement Dieu se met en colère. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Puis au verset 27, voilà Aaron qui était en train de grimper dans la montagne, Dieu l'avait vu, Moïse ne le voyait pas, mais Dieu avait vu qu'Aaron arrivait. Verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert là-bas, au devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Aaron, c'était le frangin de Moïse. Moïse, c'était le libérateur qui avait été annoncé par Abraham 400 ans avant. Aaron était un lévite. Ah, ben, il n'y avait pas de prêtre à l'époque, hein, puisque ça a été institué par la loi de Moïse. Aaron rencontre Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Ça veut dire quoi? Ah ben, ça veut dire plusieurs choses. Le mot hébreu, c'est nachak. Et nachak veut dire en gros trois choses. Donner un baiser, c'est, voilà. Ou ça veut dire manier, manipuler si vous voulez. Et ça veut dire aussi équiper. Bizarre, hein? Moïse, l'homme équipé par Dieu, équipe Aaron. Il lui donne l'équipement nécessaire. Voilà comment Aaron a été appelé par Dieu. Il a été équipé par un administrateur légal. Et nul ne s'attribue la dignité de porter la parole, c'est-à-dire d'avoir le ministère de la parole, à moins d'avoir été appelé de Dieu à la manière, à la façon de, comme le fut Aaron. Vous me suivez? Enfin, c'est la Bible. Ou alors c'est une interprétation à jeton
encore un nouveau truc pour se rendre intéressant. C'est à vous de choisir. Alors, je vous le dis, même Jésus ne se serait pas attribué cette dignité. Pendant 30 ans, il a vécu comme un simple homme. La dignité du ministère, il ne se serait pas approprié ça avant de passer par un administrateur légal. Jean-Baptiste était le seul administrateur légal au temps de Jésus. C'est pourquoi Jésus dira de Jean-Baptiste que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Luc 7, 28. En quoi Jean était-il plus grand que tous les autres prophètes qui étaient avant lui et qui viendront encore par la suite? En quoi? Dans Jean 10, 41, il nous a dit que Jean n'a fait aucun miracle. Pourtant, c'est quand même extraordinaire quand on voit un homme de Dieu qui fait des miracles, on a tendance à dire que c'est un grand homme de Dieu. Ben non, ce n'est pas le fait de faire des miracles. C'était quoi alors? Pourquoi est-ce qu'il était le plus grand? Parce qu'il mangeait des sauterelles? Non, bon, ben, c'est pas pour ça. Il était le plus grand prophète que le monde a porté et que le monde ne portera jamais parce qu'il a reçu la mission divine de préparer la voie du Seigneur. Jean-Baptiste était fils de Lévite, Lévite lui-même, et il était là pour annoncer et pour préparer le chemin du Seigneur, et tout ça par un ministère d'ange. C'est un ange qui est venu dire ça à son papa, qui d'ailleurs ne l'a pas cru. Vous vous rappelez l'histoire? Tombé muet. Tout ça, c'est choquant. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, c'est choquant. Ça dérange. Ça dérange nos petites mamies, nos petites idées. Deuxièmement, il était le plus grand parce que c'est lui qui a eu l'honneur de baptiser Jésus. Donc, vous imaginez, il n'y en a pas eu deux qui ont eu cet honneur-là. Il était, à cette époque, le seul administrateur légal des affaires du royaume de Dieu sur la terre. Il y avait le grand prêtre et tout ce que vous voulez, c'est pas eux. C'était lui, Jean-Baptiste, qui avait été annoncé par un ministère d'ange. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il détenait les clés du pouvoir pour le royaume de Dieu, et les Juifs devaient obéir à ce qu'il disait, ou alors ils étaient damnés. Et ce, en vertu de leur propre loi. C'est pourquoi il nous est dit dans Matthieu que tout le monde venait vers lui, tous les gens, les habitants de Jérusalem, de la Judée, de tout le monde, de partout, ils venaient vers lui. Et Jésus-Christ lui-même a accompli tout ce qui était juste en devenant obéissant à la loi qu'il avait lui-même donnée à Moïse longtemps avant. En obéissant à cette loi, il l'a magnifiée, cette loi, il l'a rendue honorable, il ne l'a pas détruite. Qu'est-ce qu'il a fait, Zacharie, le papa de Jean? En gros, il a arraché les clés. Il a arraché le royaume, il a arraché le pouvoir, il a arraché la gloire aux Juifs par une sainte onction, par le décret du ciel, par un ministère d'ange. Et voilà pourquoi Jean, son fils, était le plus grand prophète né d'une femme. Il a arraché tout ça, mais il ne se rendait même pas compte, pour le remettre à son fils qui allait présenter Dieu le Père dans un corps d'homme. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais alors, comment se fait-il que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste? Parce que ça, c'est Jésus qui le dit dans Luc 7, 28. Alors, on pose la question au Seigneur, parce que sinon on va chercher dans nos trucs de religion, alors il y a toutes sortes d'idées, mais c'est l'idée de Dieu qui est la meilleure. De qui Jésus parlait-il lorsqu'il a fait référence au plus petit, en disant le plus petit, il est plus grand que lui? Eh bien, Jésus parlait de lui-même. Jésus parlait de lui-même. Il n'était pas descendant de Lévi. Il était de la tribu de Judas. Il ne pouvait pas être prêtre. Mais ce qui fait que Jésus parlait de lui, en parlant du plus petit dans le royaume de Dieu, c'est surtout qu'il est Dieu qui s'est abaissé à devenir un homme, et même moins qu'un homme, un serviteur d'homme. Un serviteur le plus petit. Et Jean-Baptiste rend témoignage du plus petit disant que il allait arriver quelqu'un qui est plus grand que lui. Alors vous voyez, la pensée juive, c'est « Ouh là là, faut suivre !» Il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus grand que moi, et je suis même pas digne de délacer les chaussures, les courroies de ses chaussures en me baissant. Celui qui se fait le plus petit devient le plus grand. Est-ce que ça vous rappelle pas une parole de Jésus, ça? En se rendant vers celui qui était le seul administrateur, légal, c'est-à-dire Jean-Baptiste, eh bien, là, Jean a équipé Jésus. Il l'a nachak, ou si vous voulez, il l'a baisé, il l'a embrassé. C'est le mot nachak. Et là, c'est en grec, parce que, puis à l'époque, mais dans nos Bibles, mais en fait, il ne parlait pas grec, Jean-Baptiste. Hein. Il l'a équipé. Le Saint-Esprit est venu sur l'homme Jésus et tout pouvait alors commencer. Parce que tout s'est passé selon l'ordre de Aaron. Pas n'importe comment. Et Jésus n'avait pas que la prêtrise d'Aaron, il avait également la prêtrise de Melchisédek, qui est éternelle et intransmissible. Alors mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Il était proche, c'est-à-dire, quand je suis vers vous, il est tout proche. Parce que j'ai les clés. Parce qu'il était le seul administrateur légal du royaume. Jean disait, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche, Matthieu 3:2. Ça signifiait simplement, j'ai ici les clés du royaume de Dieu. Et vous pouvez le recevoir, je suis venu pour ça, je vous cherche pour ça, je vous ai appelé pour ça. Mais si vous ne le recevez pas, vous serez damné. Fallait écouter ce bonhomme, habillé de peau de bête, mangeant des sauterelles dans un désert. Tout est bizarre avec Dieu. Et tous les gens venaient, Matthieu 3, 5, 6. Vous lirez. Pourquoi? Parce qu'il y avait là un administrateur légal, c'est-à-dire légitime. Et comme ceux qui étaient baptisés donc par lui étaient sujets du roi, le royaume était là, proche. Est-ce que vous voyez maintenant mieux? Le royaume de Dieu était bel et bien établi au temps de Jean-Baptiste et Jésus est venu et Jean savait que Jésus était plus grand que lui, Marc chapitre 1 verset 7, parce que Jésus, lui, il détenait les clés de la prêtrise de Melchisédek. Et Jean le Baptiste, avec l'Esprit d'Élie, il savait, parce qu'il était prophète. Et Jésus a voulu être baptisé par Jean pour accomplir ce qui est juste. Mais quelle chose juste? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui est juste? Ah, alors on dit, oui, c'était pour montrer son humilité. Non, non, non. C'était pour faire les choses justes, c'est-à-dire selon la justice. Jean détenait la prêtrise d'Aaron. Il était l'administrateur légal, le précurseur de Christ, et il était venu pour préparer le chemin. Jean était prêtre selon l'ordre d'Aaron. Il avait les clés de la prêtrise qui lui avait été confiée. Et Jésus dit à Jean, « Je dois être baptisé par toi pour accomplir ce qui est juste. » Matthieu 3,15. Ça n'aurait pas été juste de ne pas passer par l'administrateur légal. C'est ça qui n'aurait pas été juste. Mes frères et sœurs, d'un bout à l'autre de la Bible, il n'y a pas de salut sans administrateur légal. Il n'y a pas. C'est pas n'importe comment. Rappelez, il y a eu un temps où les gens faisaient comme ils voulaient, tout, et puis il y a eu une gentille dame qui aimait bien son fils, et puis elle a monté un hôtel et tout. Mais c'était plein de bons sentiments, dégoulinants, gentils, tout ce que vous voulez. Mais ce n'était pas dans l'ordre établi. Dieu ne pouvait pas recevoir ça. C'est comme ça. Il faut faire les choses comme ça. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a pas été appelé comme, de la manière, à la façon, comme Aaron a été appelé. La mission de Jean, elle se limitait là, à sa prédication et au baptême. Il n'a pas cherché à aller plus loin. Mais ce qu'il faisait, c'était légal aux yeux de Dieu. Il n'a pas cherché à faire des miracles. Élie, il en faisait plein. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, il n'a pas fait de miracle. Bizarre. Il a fait ce qu'il était appelé à faire et il n'a pas bougé de là. Et quand les apôtres, qui marchaient avec Jean-Baptiste, ils s'étaient fait baptiser là, rencontrent Jésus, entendent que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient été baptisés d'eau par Jean, ben ils vont vers Jésus et là, qu'est-ce qui se passe quelque temps après? Ben ils sont baptisés de feu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'avait annoncé. Il l'avait dit, c'est comme ça que ça se passera. Et ça, c'est la prêtrise de Melchisédek, c'est-à-dire le don de l'Esprit. Jean ne dépassa pas ses limites, mais il s'acquitta fidèlement de la partie qui relevait de son office. Et puis après, il a disparu. Il faut que je diminue parce que c'est lui qui doit croître. Et c'est ainsi que l'Église doit être administrée. Parce que si ça a été comme ça depuis Adam, Abel, Abraham et tous les prophètes, et puis que le plus grand c'est Jean-Baptiste et que Jésus a dû passer par Jean-Baptiste, eh ben pourquoi est-ce que ça s'arrêterait? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il est nécessaire, mes frères, de savoir et mes sœurs, qui détient les clés du pouvoir et qui ne les détient pas. C'est nécessaire. Sinon, on est trompé. Alors, je vous demanderai de méditer sur ces choses. Il y a pas mal à faire, hein. On va en parler entre nous encore, beaucoup, je pense. Et puis prochainement, quand le Seigneur me l'autorisera, eh bien, je vous donnerai encore de nouvelles choses, d'autres choses pour aller plus loin. Mais je veux que déjà ça soit bien établi, sinon ça ne vaut même pas la peine d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Amen, ça va? Seigneur Jésus, je te prie que ces choses puissent entrer non pas simplement dans la tête, mais aussi dans le cœur, afin que chacun connaisse sa place, sa limitation, ce qu'il a à faire, comment il doit le faire, et toutes ces choses merveilleuses dans ton ordre, parce que tu es un Dieu d'ordre. Et je te prie, Seigneur Jésus, que personne ne fasse des choses n'importe comment, mais que cela soit toujours dans l'ordre établi. Merci, Seigneur Jésus, de nous garder humbles. Si notre mandat, c'est simplement de donner des tracts dans la rue, eh bien, on donne des tracts dans la rue. Si c'est simplement de balayer, eh bien, on balaye. Si c'est simplement de... Eh bien, peu importe. Mais qu'on soit sûr que ce qu'on fait, c'est pour toi qu'on le fait et qu'on le fait de tout notre cœur. Merci Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse.